Amis auditeurs, amis auditrices, nous revoilà dans une nouvelle émission dans Quête de cinéma. Cette fois-ci, nous vous avons préparé un reportage réalisé avec Simone Bouton à Marseille à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Kbir le vendredi 6 juin 2025. En voici donc la première partie en vous souhaitant une bonne écoute.
Bonjour Simone.
Bienvenue. Oui, tout va bien.
On ne se connaît pas.
Non.
Enchanté.
Simone. Oui. Voilà. Venez là, c'est la pièce calme. C'est très bien pour enregistrer là. Asseyez-vous. Mais je peux vous donner, je peux vous faire un café. Un café ? Allez. Je fais le café, il enregistre. Ouais. Pas de temps. Hein. Non, j'habite pas vraiment ici. En fait, je suis entre les deux. Je suis quand même plutôt à Paris. Et ici, c'est un pied-à-terre en cours d'aménagement et avec beaucoup d'hésitation. Je sais pas très bien. Peut-être que je vais venir vieillir à Marseille, mais je suis pas sûre. C'est-à-dire quand je suis à Marseille, Paris me manque. Quand je suis à Paris, Marseille me manque. Et entre les deux, mon cœur balance. Voilà. C'est tout est relatif dans la vie. Tout est relatif. C'est comme voilà, il n'y a pas de blanc et de noir. Aller autour de la table sur cette pièce qui est calme, donc qui convient bien à un enregistrement radio, surtout quand je fermerai la fenêtre, ce sera encore plus calme. Il fait un peu chaud, mais on va peut-être pas mettre le ventilateur. Non, voilà.
Merci Simone de nous accueillir chez toi pour cette émission.
Voilà. Bienvenue.
Bonjour Simone, merci de nous accueillir et vraiment ravi de faire votre connaissance. Quelques mots en guise de présentation. Et donc vous êtes autrice, réalisatrice de films documentaires, jusque-là, tout
c'est
va bien.
C'est bon.
Auteur et réalisatrice de films documentaires depuis un sacré bout de temps, quand même.
Oui, parce que je ne suis plus très jeune.
Et votre premier film, il s'appelle Solange Giraud Détaché, il date de 1981.
C'est mon film de promotion, c'est mon film de fin d'études.
À l'IDEC.
C'est mon film de fin d'études à l'IDEC, oui.
D'accord, donc ça, 81, donc ça veut donc dire que ça fait plus de 40 ans
ouais. Que
vous posez votre regard critique sur le monde, en particulier sur le Maroc, votre pays de naissance, mais aussi le pays où vous avez vos souvenirs d'enfance, ce qui est important. Sur le Maroc, sur Israël, plutôt sur la politique des gouvernements israéliens, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et enfin, sur la Palestine, son devenir, bon, des sujets hautement brûlants aujourd'hui. On aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Voilà, en tout près d'une vingtaine de films, dont certains multiprimés dans des festivals internationaux, dont Mur, sorti en 2004, une coproduction franco-israélienne, et un film, je dois dire, magistral. Et merci pour ce film qui, encore aujourd'hui, n'a pas pris une ride.
Merci beaucoup. Alors, franco-israélienne, la production, ça me fait toujours un peu rigoler. C'est vrai que sur le copyright, il y a écrit France-Israël 2004, mais en fait, la partie israélienne, c'est moi. C'est-à-dire que j'ai enregistré une société israélienne pour pouvoir faire ce film, afin de demander en particulier des autorisations officielles, parce que une partie du film se tourne sur dans des zones militaires, et puis j'ai une interview d'un très haut gradé. La manière d'y arriver, c'était de se présenter comme un film israélien, quoi. Comme je détenais la nationalité israélienne, c'était possible au niveau administratif. Donc j'ai enregistré une société de production qui a servi à faire ce film-là. C'est-à-dire, du coup, je pouvais avoir un papier en tête avec un numéro, enfin un machin israélien, et qui me permettait de faire mes demandes d'interview et mes demandes de passage comme si j'étais un média israélien, et ça a marché. Voilà, c'est la seule chose israélienne. Dans ce film, il n'y a pas un sou de financement israélien, par exemple. C'est ça. Et en plus, j'avais donné à cette société le nom d'une grande amie, Arna Merhamis, qui est disparue aujourd'hui. Ça s'appelait Arna Production, en sa mémoire. Arna était une femme formidable. Qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, en particulier qui a créé le théâtre de Jenin, le théâtre de jeunes, le théâtre d'enfants de Jenin. Elle était la maman de Julian Omer Khamis, qui a été assassiné il y a quelques années. Et voilà, j'avais appelé cette production éphémère Arna Productions. Voilà, c'est passé crème, quoi, comme une lettre à la poste.
Donc 2004, donc on est juste après le début de la construction du mur,
ouais.
Et autrement appelé barrière de séparation ou clôture de sécurité. Un mur de 500 km de long, le long de la ligne verte.
Bon, maintenant, il fait beau, sans doute, il y a beaucoup plus que 500 km de construit, surtout que le mur, c'est pas du tout une ligne. Justement, qu'on pourrait mesurer, ce sont des murs, il y en a partout, il y a des murs en gros autour de chaque localité, quasiment autour de chaque localité palestinienne, il y a un mur, et autour de chaque localité, autour de chaque colonie d'envergure israélienne aussi, il y a un mur, c'est-à-dire tout est des murs, un type qui viendrait de la planète Mars et qui regarderait la Cisjordanie d'en haut, dirait « mais ces gens sont fous, c'est pas possible, il n'y a que des murs, quoi. C'est le pays des murs. Tout le monde est enfermé et enferme l'autre. Enfin, les Israéliens s'enferment et enferment l'autre en même temps.
Donc,
c'est un état d'esprit, c'est devenu un état d'esprit. »
Justement, on sent bien qu'il y a une barrière physique, qui est le mur, mais il y a aussi un amoncellement de barrières mentales qui séparent les deux peuples et qui prétendent établir une espèce d'étanchéité entre les deux peuples. On en reparlera un petit peu plus tard dans la discussion. En 2024, la SCAM, la Société Civile des Auteurs Multimédia, vous décerne le prix Charles Brabant pour l'ensemble de votre œuvre. Et vous êtes donc une documentariste, on peut dire, qui compte dans le paysage audiovisuel français et du documentaire français. Sinon, vous avez l'habitude de vous définir comme une juive arabe, tout en ajoutant que vous faites partie d'une espèce en voie d'extinction.
Oui, un dinosaure. Parce que des juifs arabes, il n'y en a presque plus. C'est-à-dire, il n'y a plus, d'enfants juifs qui naissent dans le monde arabe. Donc c'est la fin. Il y a encore des juifs, heureusement. Au Maroc en particulier, nous avons encore une petite communauté très résiliente, mais il y a encore un peu quelques juifs en Tunisie, mais dans la plupart des pays arabes, il n'y en a plus du tout, et puis c'est la fin, enfin, on le sent bien, alors que c'était presque une civilisation à part entière, le judaïsme arabe, c'était une réalité, quelque chose de réel, de très présent, de très concret à l'intérieur des sociétés arabes.
Et puis multiséculaire.
Oui, enfin, au Maroc, par exemple, les gens savent, moi je ne suis pas historienne, hein, mais c'est une vérité à peu près établie de manière consensuelle que le judaïsme existait au Maroc avant l'islam. Donc ça plonge des racines très très, très profondes.
Un judaïsme berbère au départ ?
À nouveau, je ne suis pas historienne, mais c'est sûr qu'il y avait un judaïsme autochtone avant que les juifs andalous arrivent, et donc arabes, viennent les rejoindre au moment de l'expulsion des juifs d'Espagne qui en ont été expulsés en même temps que les musulmans. Donc oui, c'est une réalité très, très ancienne, très forte, une identité très forte, diverse selon les pays arabes. Il y a des histoires différentes, mais quand même, il y a beaucoup en commun, quoi. Le fait d'être juif en terre d'islam, parce qu'il n'y a pas que les pays arabes, il y a aussi les juifs iraniens, les juifs turcs, c'était quelque chose d'important à l'intérieur du judaïsme mondial. Et il n'y en a plus, ou presque plus, il n'y en aura plus apparemment. Voilà. Donc nous sommes encore très peu à se revendiquer comme tel. C'est une histoire de génération. Il y a aussi un côté idéologique là-dedans, mais enfin, c'est surtout une histoire de génération. Après nous, non, voilà, les gens de mon âge, leurs enfants ne savent plus. Enfin voilà, ils sont américains, israéliens, français, canadiens. Ils ne sont plus d'aucune manière. Ça n'existe plus. Enfin, ça n'existera bientôt plus. Donc oui, je suis une dinosaure, mais j'y tiens parce que le fait que notre identité est en train de disparaître, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas existé, que nous n'avons pas d'histoire. C'est vrai que ces dernières années, je me suis plutôt consacrée dans mes films à raconter cette histoire-là, ou des bribes de cette histoire-là, ou m'intéresser plus à ça, parce que je me dis, justement, si moi je ne le fais pas, qui le fera ? Bien que je sente un petit tressaillement de la part d'une jeune génération qui cherche ses racines, il y a un peu partout, comme ça. Souvent, ces jeunes-là m'appellent, d'ailleurs, y compris des jeunes réalisateurs et réalisatrices, voilà, qui sentent que quelque chose ne leur a pas été transmis et qui essayent de refaire vivre quelque chose. Mais enfin, c'est très, très minoritaire.
Et vous dites aussi que c'est pas parce que cette histoire est passée que pour autant elle n'a pas existé.
Ah ben évidemment, c'est le propre d'une histoire. C'est d'avoir existé, même si elle s'est terminée. Ouais.
Et donc le rôle du documentariste...
C'est aussi ça.
C'est aussi de fabriquer des traces de ce qui n'est plus.
Mais bien sûr, mais c'est de retrouver les traces et de les garder. De toute façon, tout ce que vous filmez, tout ce que vous enregistrez est destiné à devenir une archive de l'humanité. Là, on parle devant un micro, c'est quelque chose qui va rester. Donc, oui, le documentariste, ça j'y crois très fort, une de ses missions essentielles est de garder les traces des êtres humains, des lieux, depuis les choses les plus triviales jusqu'à la grande histoire, effectivement. Oui, ça fait partie de notre rôle. Et puis en plus, c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime interroger le passé, j'aime voir comment il éclaire le présent. J'aime travailler l'archive, j'aime regarder de près les vieilles photos, j'aime interroger les gens âgés parce que j'ai remarqué que souvent les gens âgés ils n'ont plus rien à perdre, ou alors ils n'ont plus rien à gagner, et ils ont beaucoup moins de barrières dans leur manière de raconter, y compris des choses qu'ils ont fait eux-mêmes. C'est très, très... j'ai ressenti ça très fort à chaque fois que j'ai fait parler, par exemple, des gens qui avaient été des responsables politiques, qui, après 80 ans, ils n'en ont plus rien à foutre, quoi. Ils oublient la langue de bois qu'ils ont dû employer pendant des décennies. Et c'est très beau, ça. C'est très beau de recueillir les paroles. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Dans mon dernier film, je crois que la moyenne d'âge, c'est 70 ans, à peu près. Et c'est magnifique, en plus, visuellement, je trouve, tous ces visages sur lesquels on lit beaucoup de choses, comme dans un paysage. Et puis aussi, la parole. Enfin, ils se souviennent... voilà, ils aiment parce que... je leur demande, dans mon dernier film, je leur demande de parler de quelqu'un. C'est un film sur quelqu'un qu'ils ont connu, mais en fait, en parlant de lui, ils racontent leur propre jeunesse. Donc ça les touche, et ça les touche qu'on vienne les chercher pour parler de choses qui souvent n'ont rien à voir avec leur spécialité, ce pourquoi ils sont parfois devenus célèbres ou importants.
Alors vous dites aussi, même si vous avez pris la précaution de dire que vous n'étiez pas historienne, vous dites que le documentariste ou la documentariste est le meilleur allié de l'historien.
Et je pense que de plus en plus, les historiens vont regarder, et déjà commencent à regarder, beaucoup de documentaires. Nous sommes leurs alliés. Parce que nous documentons le monde. Et donc chaque image est un document, chaque son est un document, et les historiens utilisent de plus en plus notre travail, qui, lorsqu'il est rigoureux, leur apprend beaucoup plus justement que certaines archives, disons, oui, écrites justement en langue de bois, voilà. Alors je dis pas qu'on va remplacer l'archive officielle, évidemment, bien sûr que non, mais c'est quelque chose qui sert et qui servira de plus en plus, puisque maintenant tout le monde filme tout, tout le monde enregistre tout, bien sûr que les historiens vont s'en emparer.
Votre parcours cinématographique, votre filmographie épouse vraiment de très près, de manière très intime, votre parcours personnel. Je vais en dire quelques mots, si vous permettez. Donc, vous êtes né en 1955 à Rabat, la capitale politique et administrative du royaume. Votre père est bijoutier à Rabat. À l'école, vous parlez français, et à la maison, l'arabe dialectal, le talija. Et puis, votre première déchirure intime, vous me dites, c'est le terme...
Pour la langue, c'est-à-dire... moi-même, je ne parlais pas vraiment d'Alija à la maison. Ce qui nous est arrivé aux juifs marocains de ma génération, c'est que nos parents, ils voulaient que nous soyons français, quoi. Donc, ils nous envoyaient à l'école française, ils voulaient qu'on parle français. Ils se parlaient entre eux d'Alija, en pensant qu'on ne comprenait pas, mais évidemment, on comprenait tout. Mais nous-mêmes, nous étions censés parler français. Moi, je suis allée à une école française au Maroc. Et c'est un changement culturel très important dont mon dernier film parle, parce que Edmond Elmaleh a beaucoup parlé de ça, de ce premier exil des Juifs marocains qui, avant de s'exiler physiquement, ont commencé par vivre en exil intérieur parce qu'ils avaient perdu la langue de leur peuple. Il y a eu une aliénation culturelle qui s'est faite par bonne volonté. Nos parents croyaient bien faire, et puis c'était inespéré. Il y avait ces écoles de l'Alliance israélite universelle qui ouvraient partout. Et pour nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents illettrés, c'était formidable. C'était une occasion extraordinaire de pouvoir envoyer leurs enfants, y compris leurs filles, recevoir une éducation, une bonne éducation occidentale, moderne. Donc, bien évidemment, et puis c'était un cadeau, mais c'était un cadeau qui avait un côté empoisonné, parce que ça nous a coupé de nos concitoyens.
Alors, votre première déchirure intime, vous allez me dire si le terme n'est pas trop fort, elle a lieu l'année de vos 11 ans, en 1966. Votre famille décide de faire son alliance, donc souvent dit son retour en Israël et d'immigrer en Israël. Pour quelle raison ?
Alors, retour, non. D'ailleurs, Aliya ne veut pas dire retour. Oui. Aliya veut dire monter. Oui. Nous ne sommes retournés nulle part. Nous sommes partis de là où nous venions. Oui, mais mes parents ont décidé en 1966 de partir, parmi presque les derniers, je dois dire, parce que le gros de la communauté s'était déjà exilé en 1966. Ce sont mes sœurs aînées qui ont décidé les premières de partir, après, l'une après l'autre, en gros à l'âge du baccalauréat. Elles sont parties, et puis nous, moi et mon frère et mes parents, nous sommes allés les rejoindre, en fait. C'était dans tous les grands exodes comme ça, il y a une part importante qui est du regroupement familial, c'est-à-dire il y a les premières vagues, ce sont les gens qui partent, et puis les vagues d'après, ce sont les gens qui vont rejoindre leurs proches. Je fais partie de cela. Nous sommes allés rejoindre mes sœurs et ma grand-mère, qui était déjà partie. Mes parents d'eux-mêmes n'avaient pas trop envie de partir. En tout cas, ils n'ont pas fait partie des premières vagues de départ. Oui, c'était, bien, je ne sais pas, vous avez dit une blessure intime. Et c'était un plus que ça, c'était un traumatisme. Un traumatisme que je ressens encore aujourd'hui. C'était un arrachement, c'était vraiment un arrachement. C'est l'exil, c'est mon premier exil.
Tu avais quel âge, Simon ?
J'avais 11 ans. Et je dis toujours aux amis que j'ai, qui ont des enfants de cet âge, peu importe pour quelle raison, qui envisagent de partir, soit de quelque part, pour des raisons professionnelles ou autres, je leur dis toujours, attention, c'est un âge très difficile, ça. Demande-lui son avis quand même, voilà. Ne lui impose pas de quitter d'un coup ses amis, son lycée, son tout ça. C'est dur, c'est l'âge aussi de la puberté, c'est l'âge, enfin bon. Et puis c'était partir complètement, parce que sans aucune idée de retour possible, puisque Israël c'était un espèce de truc voilà, lointain, inconnu, dont on n'avait pas le droit de parler. C'était partir vers l'inconnu, vers enfin moi je l'ai très mal vécu en tout cas, ouais.
Deuxième trauma, en 73, c'est la guerre du Kippour.
Ouais.
Et vous avez 18 ans à ce moment-là.
Ouais.
Et vous faites votre service militaire.
Ouais. Je fais mon service militaire obligatoire. D'autant plus obligatoire que je pense que déjà à l'âge de 16-17 ans, je savais que je ne voulais pas faire ma vie là-bas. Mais il fallait faire son service militaire pour avoir un passeport et pour partir, quoi. Donc, ouais, j'ai fait mon service militaire. J'étais une très mauvaise soldate. J'étais virée de je sais pas combien d'endroits. J'ai absolument refusé de faire le moindre cours de sous-officier ou d'officier ou de quoi que ce soit. Donc, je suis très fière d'être restée sans aucune, même pas une ligne, quoi. Voilà, même pas un sous-grade. 2 ans, Je suis restée simple soldate et j'ai exercé des tâches complètement subalternes de cuisine, de remplacement d'enseignants, de s'occuper d'enfants dans des kibboutz, enfin des trucs comme ça, quoi. Je n'ai jamais eu aucun poste militaire vraiment. J'ai touché une arme pendant les deux premiers mois où c'est les classes, quoi. On vous oblige. Voilà, c'était un vieux fusil. Voilà, j'ai dû avoir 3 jours d'instruction. 3 jours d'instruction militaire. Un uniforme que j'ai porté pendant à peu près 3 mois. Et puis après, tous les postes que j'occupais n'étaient pas des postes, étaient dans des lieux civils, quoi.
Et après, vous êtes affecté dans un
hôpital. Après, j'ai pu partir. Donc après, j'ai fait quelques économies pour pouvoir me payer un billet aller simple pour la crête.
Juste avant, vous dites, parce que je viens d'une entrevue de vous...
Y a eu la guerre en milieu, oui.
Et il y a eu la guerre, mais vous êtes affecté dans les services civils d'un hôpital. Mmh. Et là, même si vous n'êtes pas sur la ligne de front... Vous voyez arriver des blessés, vous voyez des familles qui pleurent leur disparus.
Ah ben j'ai vu des cadavres, c'est la première fois que je voyais des corps, et puis c'était des cadavres jeunes, parce qu'en 1973, Israël a perdu beaucoup, surtout pendant les premiers jours, ils ont été pris par surprise. Les troupes égyptiennes ont traversé le canal de Suez, et les premières lignes de défense ont été fauchées. Et les premières lignes de défense étaient constituées essentiellement de jeunes recrues et non pas de réservistes, c'est-à-dire que c'était des garçons de 18 ans, de mon âge. Donc oui, j'ai vu la mort, parce qu'à l'hôpital, c'est ça qui arrive, la mort, les amputations, tout ça... Et je pense que c'est ça la guerre. C'est, avant tout, c'est ça. N'importe quelle guerre, c'est ça. Avant tout. Après, il y a plein de choses autour qu'on peut analyser, juste, pas juste, j'en sais rien. Mais toutes les guerres, avant tout, c'est ça. C'est des gens. C'est des gens qui se font. Zigouiller.
Hein? Et c'est souvent les plus faibles, les plus vulnérables qu'on met devant.
C'est souvent les vieux qui envoient les jeunes mourir, c'est souvent, enfin, tout s'inverse, c'est...
Alors vous dites que ça a été que la guerre de Kippour, la guerre de 73, a été un grand traumatisme pour vous.
Grand traumatisme, oui, de voir ça, d'avoir en plus quelques jeunes que je connaissais qui ont été tués pendant les premiers jours... des jeunes de mon lycée. Et puis aussi un premier choc politique, je dirais, parce que pourquoi cette guerre, enfin pourquoi les Égyptiens, enfin je ne comprenais pas très bien, parce que j'étais très imprégnée de l'éducation que je venais de recevoir dans un lycée israélien, donc j'étais loin d'avoir une conscience politique très élaborée, mais enfin on sentait bien qu'il s'était passé quelque chose là qui n'aurait pas dû se passer. Quoi. Qu'est-ce qu'on foutait là ? Pourquoi mes camarades étaient sur le canal de Suez ? Enfin, qu'est-ce qu'on avait à foutre là-bas, quoi, en gros ? Peut-être qu'ils avaient raison, les Égyptiens, de le traverser, ce canal de Suez. Après tout, c'est eux qui l'ont construit. Enfin bon, voilà, ça, il y avait des interrogations... qui me renforçait dans mon désir de partir, quoi. Ouais, absolument.
De partir, mais aussi de l'acte zéro de votre conscientisation. Vous dites que vous n'avez jamais été une militante, mais qu'en même temps, l'expérience de la guerre du Kippour vous a profondément marqué, que c'est là que votre conscience pacifiste et votre...
Je n'ai jamais été une militante dans le sens où je n'ai jamais adhéré à un parti ou à une organisation avec des règles, des élections internes, des machins, une stratégie qu'on doit suivre. J'ai toujours été beaucoup trop, l'esprit beaucoup trop indépendant pour ça. À chaque fois que j'ai approché un peu de près... quelque chose de cet ordre, parce que j'ai beaucoup d'amis très militants, les réunions qui durent jusqu'à 3 heures du matin où on coupe les cheveux en quatre pour le communiquer à sortir, c'est quelque chose que je n'ai jamais supporté. Je préfère tellement, si j'ai quelque chose à dire, m'asseoir et l'écrire moi-même, quoi. Mais pas écrire à 10, ça, c'est pas possible. C'est comme faire un film à 10, c'est pas possible. Enfin voilà, je me situe ailleurs. نفسي فين بقات وقيت زوين من دوك لوقات سقيت روحي ذكريات وسكرت وصحيت وشي ما نسيت نفسي فين بقات وقيت زوين من دوك لوقات سقيت روحي ذكريات وسكرت وصحيت وشي ما نسيت زمانهم كان ونسمة ولون ليالي تسالي ما تسال النوم بالشمس بالشتاب الغربي شوم حسيت وحنيت اللي ما نسيت خليت ذاكرتي تما وانا سريت قال لي عقلي مش كما كذا مشيت طلعت الشجرة فيها عقيت ما جنيت تفاح سمو تلني وحلو تعود حيت J'ai toujours été une personne engagée sur des sujets politiques. Je pense que tout est politique déjà. Et c'est vrai que quand on s'intéresse à l'histoire, aux migrations, aux guerres, on manipule de la matière politique. Et en plus de la matière politique, quand on parle de cette région du Moyen-Orient, qui est très explosive, qui n'est pas consensuelle, où qu'on se trouve, elle n'est jamais consensuelle. Les gens croient toujours savoir mieux que vous, même s'ils n'ont jamais mis les pieds. Chacun a des opinions en général très tranchées. Et donc c'est une matière politique qu'on manipule mais sans faire de la politique justement, c'est-à-dire sans être dans la discipline du militantisme, mais en étant, je l'espère, en tout cas toujours dans la rigueur du documentariste. Voilà, la rigueur, c'est-à-dire ne pas raconter de sornettes, quoi. Se documenter beaucoup avant d'aborder un sujet, avoir des conseillers historiques quand il le faut, bien sourcer ses archives, les utiliser à bon escient, ce que tout le monde ne fait pas, malheureusement. Mais...
C'est peut-être ce qui fait la différence entre le documentaire engagé et le documentaire de propagande.
Le reportage télé, tout simplement.
Il y a beaucoup de différences entre le reportage et le documentaire, entre la propagande et le film d'auteur. Il y a beaucoup, disons que je me situe... oui, j'ai toujours fait des films qui sont des films d'auteur, même si je n'ai pas toujours dit « je », même s'ils avaient l'apparence de films... quand j'ai beaucoup travaillé pour la télévision dans les années 90, par exemple, le style, la forme était très télévisuelle, la télé haut de gamme, disons, hein, Histoire de la Palestine ou les grandes voix de la chanson arabe, c'était un style télévisuel haut de gamme, c'est-à-dire qu'on avait le temps de travailler, on avait le temps de préparer, on avait, mais on ne disait pas « je », quoi. Il y avait un vernis neutre, comme ça, qu'il fallait observer. Et ça ne m'était pas difficile parce que je voulais être rigoureuse de toute manière. Quand j'ai fait Palestine, Histoire d'une terre, j'avais derrière moi Pierre Vidal-Naquet et Elias Sandbar, enfin, qui n'auraient rien laissé passer. Quand j'ai fait Ben Barka, j'avais Zakia Daoud qui venait d'écrire une biographie avec Mahati Manjib, très, très fouillée, très, la seule, sur la vie de Ben Barka. Donc je puise aux bonnes sources et ça c'est de la rigueur. Mais c'est aussi de la rigueur, c'est un engagement.
La rigueur et l'honnêteté.
Oui, on peut appeler ça de l'honnêteté, il y a une déontologie du film historique, même quand il est très personnel, même quand il est intime. Il y a une différence aussi entre les films personnels et les films intimes. Moi, je crois que tous mes films sont personnels, mais je n'ai pas fait de film intime. Ce qui se rapproche le plus d'un film intime, c'est le dernier. C'est le film sur le Hajj Edmond, où je parle un peu de moi, où on voit une image de moi à la fin, comme une signature. Dans tous les autres, non. C'est pas intime. Je n'ai jamais parlé de ma vie privée dans un film, jamais. Je pense que je le ferai jamais. C'est pas la question. Ça c'est. Et bien, il y a des films magnifiques, il y a des films intimes magnifiques, mais moi je suis pas là-dedans. Je suis dans le personnel au niveau de. Je parle des choses que je connais, quoi. Et je les connais. J'ai la sensation de ne pas les comprendre tout à fait. Donc je vais chercher. Je me documente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par exemple, j'aime beaucoup Oum Kalsoum, mais je ne sais pas très bien qui elle est, quoi, pourquoi. Donc j'apprends. Je passe d'abord un an à apprendre. Je vais vers un conseiller musical qui m'apprend qu'est-ce que c'est, qui me traduit toutes les paroles que je ne comprends pas. Je commence d'abord, je fais un doctorat. Je fais un doctorat sur mes sujets avant de me lancer. Donc c'est ça que j'appelle la rigueur. Et c'est très important, ça, pour l'auteur documentaire.
On va revenir un tout petit peu en arrière. À 20 ans, nouveau départ, nouvel exil. Vous partez à Paris, vous candidatez à l'école, la prestigieuse école de cinéma l'IDEC, qui aujourd'hui s'appelle la FEMIS, et vous êtes prise.
Ouais, j'ai pas tout de suite. J'ai d'abord commencé par. Quand je suis partie, j'ai d'abord vécu pendant 2 ans ou 3. Comme une hippie, voilà, à l'époque on appelait ça comme ça, c'est-à-dire que j'ai fait toute l'Europe en autostop, à l'époque on croisait des centaines de jeunes
Donc là on est à la fin des années 70.
Oui, j'avais tout l'attirail, enfin, ma peace and love, j'avais des sabots, des jupes à fleurs, des copains, des copines, on partait, j'ai passé des mois à Amsterdam, au Portugal, enfin, en faisant des petits boulots, en faisant les vendanges, en travaillant dans des bars, dans les champs, et puis c'est au bout de 2 ans et demi de cette merveilleuse liberté. Moi je conseille ça à tous les jeunes, ça m'est toujours... difficile de comprendre les gamins d'aujourd'hui ils passent leur bac et 3 mois après ils sont en fac, quoi. Moi je leur dis mais pars d'abord aux jeunes de ma famille, en cachette de leurs parents, je leur dis mais ne va pas tout de suite à l'université, de toute façon tu sais pas ce que tu n'as aucune idée de ce que tu veux faire, enfin c'est très rare les vocations précoces à cet âge, mais là ils ont tellement peur de ne pas, enfin bon c'est une autre époque,
Oui, en même temps, vous avez su la
guerre. Moi, je voulais la liberté. Alors, surtout après 2 ans de service militaire, la liberté, quoi, de se lever le matin et de dire, tiens, de mettre, pas un rond dans la poche, mais de mettre le doigt sur la carte et de dire, bah tiens, je sais pas, moi, la Suède, ouais, pourquoi pas, allons-y, on fait comment, de regarder les autoroutes et de partir en stop avec une copine, voilà. Cette liberté-là, ces deux ans-là m'ont énormément appris, quoi, et m'ont fait un bien fou, et après j'étais neuve, quoi, j'étais une personne, donc je suis arrivée à Paris, et je me suis inscrite d'abord à l'université. J'avais pas de papier, j'étais citoyenne israélienne, et il y avait une fac, qui était la fac Paris 8, Vincennes, où voilà, les gens disaient, ben, dans cette fac, ils acceptent les étudiants sans papier, on peut s'inscrire, et puis après, ils vous donnent le papier, avec ça, vous pouvez aller à la préfecture et vous obtenez une carte de séjour. Et c'était vrai, c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis inscrite à la fac de Vincennes, et c'est comme ça que j'ai eu une première carte de séjour. J'ai fait 1 an à l'université de Vincennes, sans trop savoir ce qui m'intéressait. Je papillonnais un peu, j'avais pris des cours de journalisme, d'histoire du Moyen-Orient, et un ou deux cours de cinéma, parce qu'on m'avait dit que les profs de cinéma étaient très sympas. Voilà, en gros, c'était ça. Ils étaient géniaux. Mais je n'avais strictement aucune culture cinématographique. Rien.
Pourquoi le cinéma, alors, est plutôt que la psychologie?
Parce qu'on m'a dit que les profs étaient sympas. Voilà. Mais c'est ça, quand on a 20 ans. C'est que le département était sympa, que les profs étaient sympas, que c'était génial. Et en un an... Je suis tombée dedans, quoi. Je suis tombée dans la passion du cinéma, d'autant que Paris, c'était et c'est encore la ville où on peut voir le plus de films au monde, tous les jours, venant du monde entier, très souvent gratuitement. C'était la ville du cinéma et ça l'est toujours. Et effectivement, les profs étaient géniaux. C'était Jean-Louis Comolli, c'était Jean Narboni, c'était extraordinaire. Ils étaient aussi très engagés. Ils venaient de terminer le premier film sur la Palestine qui s'appelait L'Olivier. Et en voyant ce film, j'ai découvert d'où je venais. Voilà. J'ai compris plein de choses. C'était une année formidable. Et au début, j'allais au cinéma, je sais pas moi, une fois par semaine, ensuite 3 fois par semaine, après tous les jours, et ensuite 3 fois par jour, quoi. Ma passion, elle est née à Paris. Ma passion du cinéma, elle est née à Paris, et j'avais déjà, je sais pas moi, 23 ans, un truc comme ça. Et au bout d'un an, j'ai passé le concours de l'IDEC, quoi, et j'ai eu la chance d'être acceptée. Et j'ai vécu 3 ans de grand bonheur à l'IDEC. Ouais.
Alors pourquoi ? Parce que j'imagine que c'était à l'époque un peu comme aujourd'hui, les étudiants de l'IDEC qui s'orientent quasiment spontanément vers la fiction. Vous choisissez le documentaire, c'est un choix au départ volontaire, conscient?
On était quelques-uns quand même. Déjà, il y avait peu de filles, mais il y en avait quelques-unes. J'étais dans la même promotion que Dominique Cabrera, par exemple, qui fait des très beaux documentaires. Que Jacques Deschamps, qui a fait des beaux documentaires aussi. Comme film de promotion, nous n'avons pas été nombreux à choisir le documentaire. Mais je sais pas, j'étais très très... J'avais comme professeur Jean-Louis Comolli, que dans notre Darija, j'appelais mon Ma'allem, c'est-à-dire mon maître, quoi, qui m'a beaucoup appris. Et qui était le grand théoricien, je crois, du documentaire.
Et qui était à cette époque-là rédacteur en chef au Cahier du Cinéma.
Peut-être pas en même temps, mais il l'a été à un moment. Il était mon directeur de travail pour le film de fin d'études, et j'avais fait un film, voilà, très féministe. Non, j'ai toujours voulu faire du documentaire. Voilà. Toujours voulu faire du documentaire, et je n'ai toujours fait que ça.
Vous jamais attiré, il n'y a pas une petite tentation pour faire de la fiction?
Non, non. Non, je suis un bon public pour la fiction, je pense. Mais la fiction, c'est un tempérament. La fiction, le réalisateur est Dieu, quoi. Il recrée le monde complètement. Il dit aux gens ce qu'ils doivent dire, comment ils doivent s'habiller, il construit la maison comme il veut, enfin, il refait le monde. Moi, j'ai jamais eu cette envie-là. C'est aussi... c'est terrifiant parce que le réalisateur de fiction, il arrive le matin, il faut avoir une grande assurance parce qu'il arrive le matin et il y a 50 personnes, parfois 150 personnes qui l'attendent pour qu'ils disent où poser la caméra, quoi. En gros, c'est ça, c'est Dieu. Le réalisateur de fiction, il est Dieu. Le réalisateur de documentaire, même lorsqu'il a une petite équipe, ben, il est comme vous. Il arrive chez les gens, il regarde où est l'endroit où il y a le plus de lumière. En général, il n'a pas beaucoup de temps pour ça. Il installe un micro, une caméra, et il ne sait pas ce que les gens vont dire. Voilà. Et c'est ça qui est beau. Parce que... Enfin, c'est ça qui me plaît. Maintenant, oui, il y a beaucoup de choses qui s'interpénètrent. Il y a surtout au montage, il y a le rythme. Je fais du cinéma. Il y a du rythme, il y a du cadre, surtout du cadre. Il y a de la construction, il y a de la narration, il y a un récit qui se développe, il y a beaucoup de choses en commun. C'est du cinéma. On raconte une histoire. Mais c'est la position humaine du metteur en scène, elle est complètement... Enfin, la position du réalisateur de fiction ne convient pas à mon tempérament, disons. Non pas que je sois particulièrement timide, mais je n'ai pas ce courage-là. Enfin, moi, par exemple, les acteurs me font peur. De dire à quelqu'un comment il doit parler, je ne saurais pas. Je n'ai pas envie. Je préfère découvrir comment il parle. Alors bien sûr, il y a des réalisateurs de fiction, et ce sont en général ces cinéastes-là, même en fiction, que je préfère, qui laissent la porte ouverte à tout ce dont je parle. Et c'est très beau, j'aime beaucoup ces films-là, dont la manière de travailler avec l'acteur, c'est un peu du documentaire. Il y a je veux dire, Cassavetes, il fait du documentaire sur son actrice. Voilà, il la documente, il la filme sous toutes les coutures, il la découvre à chaque plan. Donc, ce que j'ai dit avant était très schématique. Mais quand même, en gros, c'est ça, la grosse différence. Pour moi, c'est surtout une question de tempérament. Maintenant, j'ai des amis et des collègues qui font du documentaire et de la fiction, et je trouve ça formidable. Et il y en a qui font des films où on ne sait pas très bien où est la fiction et où est le documentaire, et je trouve ça merveilleux. Et il y en a de plus en plus, des films comme ça. Parfois je n'aime pas du tout, et parfois quand ça marche, c'est magique. Mais enfin, moi je suis tout à fait à l'aise dans mon petit système où j'ai une histoire à raconter et je les raconte avec les outils du documentaire qui sont très variés. Je fais des films, j'ai pas fait... C'est très rare que je reprenne le même dispositif pendant deux films de suite, non. Non, je fais des films avec voix off, sans voix off, avec archives, sans archives, très silencieux ou bien plein de paroles, des films tout en extérieur, des films tout en intérieur. Enfin, j'ai fait les outils sont infinis. J'aime bien varier les styles, mais ça, ce n'est jamais de la fiction.
Okay. Alors maintenant qu'on vous connaît un petit peu mieux, on va peut-être rentrer dans le détail de vos films. On a dit tout à l'heure, c'est 20 films.
Oui, je sais plus.
Donc une filmographie quand même extrêmement bien remplie.
Bah, pas tant que ça, il y a des gros trous, il y a des années, il y a des films, des fois il y a 3 ans sans film, 4 ans sans film, c'est difficile, ça devient de plus en plus difficile d'ailleurs, de monter le financement d'un film, de réussir à le faire. Donc non, je pense qu'il doit y avoir des gens qui ont fait plus de films que moi, mon âge, mais je sais pas. Enfin, j'en ai fait pas mal, ouais, disons.
En même ?
Oui.
Et alors, on va commencer par les films au Maroc.
Ah ben, au Maroc, j'en ai pas fait beaucoup. Hein. Au Maroc, j'ai fait Ben Barka, j'ai fait Ziyara, et je viens de faire...
Ça fait déjà trois.
Ça fait trois, ouais.
Et le nouveau film,
oui, ouais, et justement, on va commencer par la fin, en fait.
Ouais.
Par la fin, qui n'est pas une fin, en tout cas, par votre actualité,
ouais.
Qui est effectivement le film que vous venez de réaliser et qui est sorti là, il n'y a
pas
longtemps.
Alors, il ne sort pas vraiment parce que ce n'est pas un film de cinéma, il n'est pas destiné au cinéma, donc il ne va pas sortir en salle, bien que je m'efforce de le montrer le plus possible sur grand écran avant qu'il ne passe au petit écran. Il sera en octobre, je crois, ou peut-être un peu plus tard, sur TV5 Monde et aussi sur la plateforme de TV5 Monde. Il sera à la télévision marocaine aussi. Mais il ne va pas sortir en salle, une vraie sortie en salle. Voilà, il n'a pas eu la filière de financement pour ça. Il n'était pas destiné à ça.
Alors, ça s'appelle les mille et un jours. De Hadj Edman,
ouais.
On l'a vu il y a un mois au Mucem.
Ouais.
Oui, ben, c'était dans notre dernière rencontre avec Simone Bitton, où elle était venue projeter ce film.
Au Mucem, en fait, c'était la deuxième projection en France, parce que sa première projection en France était à Paris, au Festival Cinéma du Réel. Et quelques jours après, je suis venue le montrer au Mucem. Ouais.
Je voulais faire juste une introduction par rapport à ce texte que j'ai trouvé. Et avant de lire ce texte, j'ai beaucoup apprécié la petite histoire, la petite anecdote. En parlant des jeunes enfants de diaspora juive qui aujourd'hui se... re-questionnent l'histoire, ils ont une envie de revenir chez eux, à la base. Mais ils sont tellement éloignés, ils cherchent, tu disais, Simone, ils cherchent quelque chose, ils cherchent à... Et cette chose-là, je pense que c'est la langue, finalement. C'est la langue de leur vieux, de leurs parents. Et cette langue, en effet, ils ne peuvent pas la retrouver aussi facilement parce que je pense que aussi, et je l'ai souvent dit, que plus que les barrières politiques, les frontières armées, les langues sont des barrières très dures à traverser, et surtout la langue arabe, et encore plus la Darija avec toutes ses variations et ses couleurs. Je vais vous lire ce petit texte que j'ai trouvé dans un document de recherche édité par Chase College. Cette recherche a été faite, a été publiée par le Sunday Times aux USA, par Ronnie Scharfman. Le dernier juif d'Asila, plus aucun juif ne mourra dans cette blancheur. Plus aucun ne naîtra dans la gloire de cette lumière. Non. Et en lui s'est accompli un destin. D'autres peut-être sont morts en cette ville après lui. Mais leur mort a été dérobée à cette terre, la terre de leur naissance, enterrée ailleurs. Ne pourra dire qu'ils avaient vécu là. Destin des jours et des jours obsédés par l'existence de ces cimetières, sans pouvoir franchir le pas d'aller sur place, recueillir la certitude d'une présence et d'une mort désormais indissolublement liées. Une communauté est morte, la communauté juive, Zaylachi.
C'est un texte d'Edmond Amran El-Maleh. Voilà, c'est un de ses textes les plus emblématiques et c'est la page qui ouvre... C'est la page d'ouverture de Parcours immobile qui est son premier roman. Et le premier roman qu'il a publié à l'âge de 63 ans. Ouais. Il lui a mis du temps. Et j'en reprends une partie dans mon film. Je reprends une partie de ce texte. Et je suis allée d'ailleurs au cimetière juif d'Asila dont il est question, pour retrouver cette tombe dont il parle, pour me rendre compte qu'apparemment elle n'existait pas. Il y a des Naons, mais il n'y a pas de Naons mort à cette date-là. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé, ce qui me donne l'occasion de méditer un peu dans ma voix off sur la différence justement entre la littérature et le documentaire. Et de dire, je n'ai pas pu te prendre au mot, parce que toi, tu peux t'affranchir du réel, moi non. Moi, ma caméra, elle ne filme que ce qui est réel.
Edmond, comment te raconter, tu as eu tellement de vie. Tu étais juif, mais nous t'appelions Al-Hajj, comme si tu avais fait le pèlerinage de la Mecque.
Dès que je l'ai vu au feu rouge, pour moi, c'était une photo à faire immédiatement.
Ne pas rire trop fort. Ne pas parler à trop haute voix. Ne plus manger avec les doigts. Ne pas dire « ah » quand on a mal, mais le « aïe » français, poli et neutre. Ne plus dire « imma », mais « maman ». Autant d'interdits pour apprendre à ne pas vivre.
Ces derniers temps, j'ai beaucoup pensé à toi. J'ai montré ton livre à un artisan. Il m'a fait cet objet en souvenir.
Tu vois quelque chose?
Très peu.
Quoi?
Ben c'est... L'intérieur est encombré de déchets divers.
Et bientôt, dans cette grande pièce transformée en synagogue, les têtes se couvrirent de talits et de soie blanche rayée de bleu. Ardente, fervente, tissée dans le silence, la prière montée. Implorer le pardon pour les crimes commis, le kaddish pour l'enfant mort.
Ce qui est touché le plus, Edmond, c'est plus que la Palestine, c'est le Maroc. Il ne pardonne pas à Israël d'avoir assassiné la personnalité juive marocaine dans son pays.
Sur cette photo d'identité, tu as 20 ans, Hajj. Et dans tes yeux, je lis que tu allais bientôt choisir ton camp.
Le fait qu'il soit parti du Maroc pour s'exiler volontairement en France, c'est un acte de résistance.
Je mets une image après l'autre, Hajj. Pour retrouver le temps.
C'était presque comme si nous étions nés dans le même pays qui était le pays qu'on nous avait enlevé.
Mais il n'est pas musulman.
Il est musulman yahoudi. Il est un rasoub hal maghribi niche.
Alors, cette question essentielle, cette quête d'identité qui motive et anime l'œuvre entière d'Edmond, on pourrait la résumer par cette phrase peut-être, mais qu'est-ce que être juif, juif marocain, marocain juif, c'est indissociable. Quand on traverse l'œuvre, on comprend le roman Parcours immobile en 1980, je fais un petit peu l'historicité de Alien ou La nuit du récit, 1983, Milan, un jour, 86. Je pense que c'est le roman qui a inspiré votre film, mais pas que. Le retour d'Abou Haki en 90, ainsi que des essais et des nouvelles autour de Jean Genet, Le captif amoureux, 98, Abdel Nour, Le café bleu de Zellerer, 98. Mais là, il revendique quelque chose d'essentiel, et toute son œuvre est bâtie autour de ça. Cette langue, la perte de cette langue. Mais il y a quelque chose qui, je trouve, dans ce document de recherche toujours que je suis en train de lire, sa position, il y a toujours une forme d'identité subordonnée de Dhimi. Qu'est-ce que ça signifie?
Le Dhimi, c'est un terme
musulman, juridique musulman, qui signifie le protéger. C'est-à-dire le juif en terre d'islam avait une position de dhimmi, c'est-à-dire qu'il était protégé par le pouvoir. Littéralement, ça veut dire ça, oui.
Le peuple du livre.
Non, enfin, peut-être parce qu'il était le peuple du livre, mais la raison pour laquelle il était protégé. Mais en tout cas, il ne fallait pas se prendre à lui. Et c'est aussi une discrimination, c'est-à-dire qu'il n'était pas comme les autres. Nous étions une minorité religieuse dans un ensemble majoritairement musulman. Et là, ça n'a pas toujours été rose. Ni moi, ni Edmond, il n'y a pas d'idéalisation de ce statut. C'est pas très sympathique d'être un dhimmi. Mais de toute façon, personne n'était citoyen au sens où on l'entend aujourd'hui. La vie n'était facile pour personne, et elle ne l'est toujours pas d'ailleurs, dans un pays.
Alors, c'est qui Edmond El Maleh?
Eh bien, Edmond Amran El Maleh est un juif marocain ou un marocain juif, je laisse les gens trancher, de la génération d'avant la mienne. Il est mort il y a 15 ans à l'âge de vénérable de 93 ans. Il est né en 1917 dans une famille bourgeoise des Saouira et très aisée. Mais lui a choisi le communisme et c'était vers la fin du protectorat français. Il a été communiste, membre important du Parti communiste marocain, membre de la direction et du comité central pendant la lutte pour l'indépendance. Donc il s'est battu pour l'indépendance, il a pris des risques, il a dirigé le parti quasiment dans la clandestinité pendant quelques mois où la direction du parti était exilée à Madagascar. Et c'est un homme qui est avant tout respecté au Maroc à cause de son patriotisme, enfin de son appartenance au mouvement national, au mouvement de libération du Maroc. Ensuite, une fois que le Maroc a obtenu son indépendance, il était professeur de philosophie, il a continué ses études et il s'est mis à enseigner la philosophie à Casablanca. Il a aussi épousé une professeure de philosophie, une coopérante française, Marie-Cécile Dufour, et il n'avait absolument pas l'intention de quitter le Maroc. Ils étaient très heureux de participer à la naissance d'un Maroc libre, moderne. Voilà, les premières années après l'indépendance du Maroc, comme dans beaucoup d'autres pays qui venaient de se libérer du colonialisme, étaient très enthousiasmantes, très, très, très créatives, très bouillonnantes au niveau intellectuel. Et puis, ça a duré 10 ans. Au bout de 10 ans, il y a eu l'avènement de Hassan II. Après,
c'est 1956-1965.
Voilà. Et très peu de temps après le début du règne de Hassan II, ont commencé ce que les Marocains appellent les années de plomb, à savoir une répression très féroce contre tout mouvement social et contre toute vie intellectuelle indépendante. Ça, on le dit très rarement, on en parle beaucoup moins, mais il faut savoir que Hassan II a quand même interdit l'enseignement de la philosophie. Je ne sais pas s'il y a d'autres pays qui peuvent se targuer. Donc quand même, pour un jeune couple de jeunes philosophes, ça devenait invivable. Il a d'ailleurs été arrêté, un petit peu torturé, pas beaucoup, mais enfin, il a passé une semaine très difficile. Il avait été pris dans une rafle d'enseignants. Il y avait une hargne vraiment à l'égard des intellectuels et à l'égard des enseignants. Voilà. Parce que c'était la jeunesse qui se soulevait. En 65, il y a eu des émeutes de lycéens, d'étudiants. Donc, il fallait punir leurs professeurs. Et là, il a dû partir. Il a décidé de partir. Ils sont partis. Et moi, je l'ai connu à Paris, après qu'il... Donc il s'est installé à Paris. Il avait cette chance d'avoir une femme française. Donc c'était... Mais cela dit, il n'a jamais demandé la nationalité française. Il est resté marocain jusqu'à sa mort. Il aurait pu très facilement obtenir la nationalité française. Et il a continué d'être professeur de philosophie, d'enseigner dans des lycées parisiens. Il donnait des articles à différentes revues, des interviews de philosophes, enfin, toutes sortes de choses. Dans le monde des livres, on trouve souvent sa plume, comme journaliste littéraire. Mais il n'est vraiment devenu romancier que, comme je le disais, qu'à l'âge de 63 ans, où il a sorti Parcours immobile, qui était son premier livre. Et à partir de là, de 73 à 80 ans, à 93 ans, pendant 30 ans, il a construit une œuvre absolument phénoménale. Il a été très très prolixe, il a beaucoup écrit, et c'est une œuvre fondamentale. Là, je reviens du Maroc, où en avril, j'ai fait une tournée de projection avec ce film que je lui ai consacré. Et à une des projections à Casablanca, un monsieur s'est levé dans la salle, qui s'est présenté comme professeur de littérature et à l'université, et qui m'a dit: savez-vous, madame, qu'il y a actuellement au Maroc 14 doctorants qui travaillent sur l'œuvre d'Edmond Amran El-Maleh dans nos différentes facultés? Et je ne le savais pas, et j'ai trouvé ça formidable. J'en ai un dans le film, un doctorant, mais je pensais qu'il n'y en avait que un ou deux. Et il m'a dit qu'en ce moment, il y en a 14. Donc, il est vraiment connu au Maroc, il est très respecté au Maroc, mais seulement au Maroc. Alors qu'il est francophone, c'est un écrivain francophone. Il est très peu connu en France. Ses deux premiers livres ont été édités par Maspero, et ensuite, il est passé dans une petite maison d'édition de province. Et à la fin, il a été édité directement au Maroc.
Alors, au-delà de rendre hommage à une grande figure du nationalisme marocain...
Et de la littérature marocaine.
Alors, pourquoi aujourd'hui avoir voulu exhumer ce personnage? Qu'est-ce qu'il nous dit de notre présent?
C'est pour ça que je dis que ce film est sans doute le plus intime, le seul film intime que j'ai fait, parce qu'il se trouve que Edmond était aussi un ami pour moi. C'est-à-dire, je l'ai rencontré à Paris, il avait déjà publié deux livres lorsque je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré juste avant, à l'époque de Milan un jour, mais il avait déjà publié Parcours immobile et Hélène. Et j'ai fait partie un peu d'un cercle amical qui se retrouvaient très souvent chez lui, chez eux, dans leur petit appartement, qui était un lieu de rencontre, de discussion, de savoir, mais aussi de rigolade et de bonne bouffe, parce qu'il faisait très bien la cuisine. Et moi, c'était pour moi et pour d'autres jeunes marocains, il ouvrait très généreusement sa porte, surtout à des jeunes. Et surtout à des jeunes marocains. Moi qui étais à Paris sans famille, c'était formidable d'avoir ce couple tellement affectueux, tellement intelligent, tellement érudit, et en plus qui faisait bien les tagines. Donc c'était merveilleux, quoi. On s'y sentait chez soi. Donc j'ai toujours eu beaucoup de tendresse pour lui, qui était une tendresse partagée, je pense. Il m'aimait beaucoup. Comme il aimait beaucoup de gens, il avait des centaines d'amis, et je me retrouvais aussi beaucoup dans ses écrits, parce qu'il a écrit à la fois beaucoup il est vraiment la plume à la fois de la politique et de la désillusion politique de la gauche marocaine, c'est-à-dire de ceux qu'ont vécu des gens de sa génération ce qu'ils ont vécu de terrible lorsque leur rêve lorsque leur rêve d'indépendance s'est transformé au bout de 10 ans en cauchemar de répression. Il a beaucoup écrit là-dessus, et très bien. Il a écrit beaucoup sur le traumatisme que j'avais en commun avec lui, qui est celui du départ des Juifs, de l'anéantissement de notre identité, de sa disparition. Et il a aussi beaucoup écrit sur la Palestine. Il a fait quelque chose qui est très présent dans ma vie aussi, et c'est sans doute pour cela que je me sentais si proche de lui, c'est qu'il a articulé dans son œuvre de manière magistrale une double tragédie qui s'est déroulée en parallèle, c'est-à-dire pendant que le Maroc et le monde arabe se vidaient de ses juifs, la Palestine se vidait des Palestiniens. Et nous les avons en quelque sorte, de bon gré mal gré, remplacés. Il a articulé ça. Il a eu le courage de le faire et de raconter le drame de tous, sans du tout, tout en étant très clair politiquement. Il dit dans mon film, et il ne cessait de le dire, qu'aucun juif digne de ce nom ne pouvait, et fidèle à son histoire et à sa mémoire, ne peut accepter la politique de destruction israélienne, de destruction et d'anéantissement du peuple palestinien. Et je me retrouvais très fort en cela. Mais il a articulé ces deux tragédies de manière, enfin, il les a fait se rencontrer dans son œuvre, comme elles se sont rencontrées dans ma vie et comme elles se sont rencontrées dans l'histoire contemporaine. Et ça, je pense qu'il est quasiment le seul écrivain, qu'il soit juif ou arabe ou palestinien, à l'avoir fait. Et c'est fondamental pour moi. C'est extraordinaire.
Oui, on trouve vraiment une concordance dans votre histoire personnelle, Simone, parce que vous avez fait le tour de ce monde connu pour mieux revenir, je pense, dans votre filmographie à vous concentrer sur des sujets marocains. Depuis Ben Barka, la question marocaine, Ziyara et ce nouveau film avec Haj Edmond, vraiment là, je sens qu'il y a un point de convergence vers la langue qui demeure et toujours avec ses fonctions sacrées, aussi bien que mythiques, avant la guerre israélo-marocaine, donc de israélo-arabe en 48, lorsque la communauté juive du Maroc est celle d'où émane le texte du Malah, comptait encore presque 250 000 habitants, rien qu'au Maroc. La carte linguistique qui était très très riche et qui comprenait plusieurs populations anciennes parlant elles-mêmes plusieurs dialectes. Le Malah, il essaye de reterritorialiser dans son discours la dispersion irréversible qu'a été l'exode dramatique de cette communauté juive marocaine après la guerre israélo-marocaine, donc de l'israélo-arabe en 1948, la crise de Suez en 1956, donc les guerres d'indépendance aussi, qui ont peut-être motivé cette dernière guerre des six jours de 67, par mauvais conseil à Nasser. Le roi du Maroc, apparemment, à l'époque, n'était même pas sûr d'adhérer à cette guerre, il me semble, hein, parce qu'il était exclu de la Ligue.
Ouais. Je peux vous raconter une anecdote magique. Edmond, lui, avait une Dalija merveilleuse. Il s'exprimait merveilleusement en Dalija. Moi, ma Dalija est complètement... elle est très, très primaire et pleine de... elle est nulle, quoi. Mais bon, je baragouine. Mais c'est déjà bien, parce qu'il y a 10 ans, je ne baragouinais même pas. J'étais absolument persuadée d'être... Je la comprenais, je comprenais ce qui se passait quand des gens parlaient en Dalija autour de moi, mais j'étais incapable de sortir une phrase. Et j'étais persuadée que je ne pouvais pas parler en Dalija, ni bien ni mal, mais pas du tout. Et lorsque j'ai fait mon film Ziyara, qui est un film qui est entièrement consacré, dont les personnages sont des gardiens musulmans de lieux juifs au Maroc, où je suis allée à la rencontre de ces familles musulmanes qui gardent nos cimetières, nos synagogues, etc. Et quand j'ai commencé mes repérages, j'avais toujours une assistante ou une amie ou quelqu'un avec moi qui traduisait, parce que je me sentais pas capable de converser avec ces gens directement. Et ça se passait, bon, voilà, ils sont très gentils, ils ont l'habitude de juifs qui arrivent pour voir les tombes de leurs ancêtres, donc ils ont toujours été accueillants et tout, mais voilà. Et je ne sais pas comment, mais il s'est passé un miracle. Et un jour, j'ai dit à la copine qui m'accompagnait, arrête. Et la langue m'est revenue. Je me suis mis à parler avec eux en Dalija, mal, mais à parler. C'est-à-dire, et j'ai dit, ce film, je le fais sans traducteur. Voilà, avec des fautes, comme je peux. De temps en temps, je demandais à quelqu'un comment on dit ça, voilà, et je l'intégrais, mais et ça a complètement transformé le film. C'est-à-dire que dans le film, je parle d'Alija avec des Marocains, et donc ils m'accueillent immédiatement comme une sœur, comme une. Et il n'y a pas besoin de longs préambules avant de commencer. J'ai pas besoin d'expliquer qui je suis, parce que dès que j'ouvre la bouche, ils savent non seulement qui je suis, mais ils comprennent de quelle ville, de quel quartier, de quel. Voilà, parce qu'il y a. Et donc c'est extraordinaire la langue. Les langues maternelles peuvent revenir. Il y a plein d'exemples dans la littérature savante, même médicale, de ça, où les langues maternelles qu'on a oubliées reviennent à un âge avancé. Alors je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais voilà. Maintenant, quand je vais au Maroc, je me fais un point d'honneur, quand je vais même dans une administration ou quoi que ce soit, je me force. Et je parle en Dalija. En plus, ma Dalija est d'autant plus abîmée que j'y intègre des mots de Moyen-Orientaux. Parce que comme j'ai vécu beaucoup avec des Palestiniens, avec des Arabes, avec des Libanais, donc j'y intègre ça aussi qui n'est pas censé y être. Donc ça les fait rigoler. Mais ça marche, quoi. Voilà.
Néanmoins, ils vous connaissent de suite.
Oui, ils comprennent que j'ai. Ils comprennent presque tout dans ma Dalija. Vous savez, le dialecte, tous les dialectes ne sont pas figés. Un dialecte continue toujours. D'ailleurs, des gens me disent, tu vois, cette chanson, quand on l'écoute, cette vieille chanson, c'est de la Dalija des années 50. Maintenant, on ne le dirait pas comme ça. Ça continue d'évoluer, les dialectes. Non seulement ils sont différents de ville en ville, de famille en famille, de confession en confession, mais aussi ils évoluent avec le temps. Donc la Dalija d'aujourd'hui commence à intégrer même quelques mots en anglais, voilà, qu'il n'y avait pas du tout il y a 20 ans ou il y a 30 ans.
Comme le français accepte aujourd'hui Rouya, Chouya, Chouf. Des termes que les enfants inventent à chaque génération. Oui, je vais dire quelque chose. Pour vous lire juste un autre extrait de ce texte que j'ai trouvé, en fait, qui s'intitule « Recette pour une cuisine de résistance » ou « La mise en mots de l'identité minoritaire ». Je me rappelle aussi avoir mené il y a quelques années, il y a quelques temps, on a fait une émission en hommage à Ahmed Bouanani. Je pense que vous verrez de suite un petit peu dans l'hôpital, dans des livres qu'il avait écrits, que lui aussi mettait souvent le doigt sur cette question de la perte de la langue, y compris même chez les Marocains eux-mêmes, juste après ces événements de l'indépendance. Et pour résumer un petit peu un texte assez long, où il dit que finalement, voilà ce qu'on a hérité de notre indépendance, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes générations, si on compte le nombre de mots qu'ils ont gardé en mémoire pour décrire un plat de cuisine, ça tiendrait même pas dans le creux d'une main. Et c'est ça qui me pousse à vous proposer peut-être de vous lire ça, de un texte assez qui parle de cette littérature, de cette langue qui se cuisine. Et puis soudain, la table de fête vire, rompt ses attaches. L'éclat des saveurs, des parfums, arrivés des cuisines, soulève
rébellion, danse triomphale, décor cuivré, le sucre, le doux, l'alphabet mystique, enveloppé dans la coquille d'un mot innocent. Zafran, come on, kawiya, zar, dbana, l'gouta, ou l'gouza, sharawiya, l'khurkhum, ou l'kurkum, fufla, soudania, skikra, le cospar, les fourchettes désormais, les couteaux aussi, les doigts entrent dans la viande onctueuse. L'enchantement opère, la raideur fond dans la tiédeur des délices. Le cerveau pacifié, apaisé, glisse dans des rêves lisses. C'est magnifique, quoi. Je veux dire, à travers l'envie de foncer dans le plat marocain avec ses cinq doigts, quoi. Il rappelle déjà au moins une litanie, il récite au moins une vingtaine de termes d'épices qui rentrent en coalition en mijotant son plat et que ça donne envie d'être en paix avec son entourage. C'est...
Ah ben ça, on l'a pas perdu. La cuisine, on l'a pas perdu, heureusement. Oui.
Ça devient un artifice, un fil conducteur qui nous ramène en mémoire.
Et puis, alors, ce texte est très représentatif de ce qu'il se permettait dans ses livres, c'est-à-dire que les mots en dalija, par exemple les noms des épices, ben, il les écrit en dalija dans le texte. Donc évidemment, le pauvre lecteur français est complètement perdu. Donc ses éditeurs lui disaient, mais quand même, fais un effort, mets des notes en bas de page, traduit, et lui, il ne voulait absolument pas. Donc je pense qu'il est en partie lui-même fautif du fait de n'avoir pas été reconnu à sa juste valeur par le monde littéraire français, parce qu'il est très difficile à lire pour quelqu'un qui ne connaît ni le Maroc, ni parce qu'il est... Il disait les mots à l'intérieur du texte dans la langue qu'il voulait, quoi. Donc il y a plein de mots en dalija dans son texte français qui sont, il faut le dire, incompréhensibles pour un nom marocain. Donc ça rend ses livres parfois un peu hermétiques, mais pour nous, quel délice de les lire, quoi. Voilà.
Ah ben je...
Alors une... Ouais. Parce que c'est ça notre langue. Notre langue, elle est complètement mélangée et elle n'est pas pure, justement. Notre langue est un mélange de langues. Et c'est en le lisant qu'on découvre, que moi, j'ai découvert, je me disais, mais c'est la première fois que je lis un livre dans ma langue maternelle, c'est-à-dire dans ma langue qui est un mélange de langues. Voilà. Qui est où on dit quelque chose, on le dit en français, mais il y a certaines choses qu'on ne peut dire qu'en dalija. Et c'est notre vie, elle est comme ça, quoi. Je veux dire, à la maison, tout était dit en français, mais les mots de caresse, quand on caresse un enfant, c'est en dalija. Et donc, on a vécu comme ça. Et donc, de le trouver en littérature, c'est très fort. On se sent chez soi dans ces mots.
Et puis la cuisine, c'est aussi un autre langage, c'est-à-dire que souvent par pudeur, on ne dit pas les choses par pudeur et on les dit en offrant un plat. Enfin, c'est aussi une manière de déclarer sa flamme aussi.
Il faisait très très bien la cuisine, Edmond, c'est vraiment quelque chose. Alors il faisait très bien la cuisine à la manière dont les hommes font très bien la cuisine chez nous. C'est-à-dire, mon père aussi faisait très bien la cuisine. Souvent, il y a beaucoup d'hommes marocains qui font bien la cuisine, mais il faut passer 3 heures après derrière pour nettoyer. Voilà. C'est-à-dire, ça, ils ne s'en soucient pas, quoi. Hein, tu es d'accord?
Oui, complètement,
voilà.
Complètement.
Ce sont des artistes, mais ils ne se soucient pas de l'intendance. Voilà.
C'est toujours l'urgence qui, qui met l'accent dans notre débat. C'est vrai que
la cuisine, oui, ça.
Et en parlant de cuisine, on peut parler de la cuisinière qui est extraordinaire, son amie cuisinière, à qui il donne.
Il a légué sa cuisinière.
Un fourneau.
Ouais.
Et qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'est vous qui lui dites, mais vous savez qu'Edmond était juif. Ah oui, mais Edmond, c'était un juif musulman.
Oui, c'est la dame qui s'occupait de lui, qui s'est occupée de lui jusqu'à son dernier jour, et qui était elle-même une comme beaucoup de, comme presque toutes les femmes marocaines, une très bonne cuisinière. Et il lui a légué sa cuisinière, son fourneau, qu'elle a emmené chez elle, et elle cuisine toujours dessus. Elle m'a fait un couscous dessus le jour où je suis venue la filmer. Ouais. Et effectivement, elle, avec ses mots, elle qui est illettrée, qui n'a jamais lu un de ses livres, évidemment, mais elle le comprenait très finement, et elle raconte qu'il était l'invité d'honneur dans sa famille le jour de l'Aïd, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de l'Aïd, c'est le jour où on sacrifie le mouton. Et il venait très souvent passer l'Aïd chez elle, qui vivait dans un quartier très populaire. Elle a beaucoup d'enfants, avec les frères, les sœurs, les cousins, les tantes. Et il était l'invité d'honneur. Ils attendaient qu'il arrive, lui, le juif, pour égorger le mouton. Et pour qu'il ait le meilleur morceau.
Ami.
Et ça aussi, c'est très marocain d'avoir un invité d'honneur à l'Aïd qu'on attend. Souvent, c'est un vieil oncle respectable, vénérable. Et là, c'était l'ami juif. Voilà. Et donc, je lui dis, mais c'est quand même bizarre parce qu'il n'était pas musulman. Et c'est là qu'elle me répond. Mais il était juif musulman, quoi. Du genre, tu comprends rien. C'est-à-dire que pour elle, il était tellement marocain qu'il y avait forcément quelque chose de musulman là-dedans. Et en fait, elle n'a pas tort. C'est drôle quand elle le dit, mais elle n'a pas tout à fait tort. Parce qu'on parle beaucoup depuis quelques décennies de civilisation judéo-chrétienne, qui est une invention complètement. Il n'y a jamais eu de civilisation judéo-chrétienne. Par contre, il y a eu une civilisation judéo-musulmane, ça c'est sûr. C'est-à-dire que l'islam fait partie de nous, juifs arabes, et le judaïsme fait partie de la civilisation arabe.
Vous entendez, il y en a qui ne vont pas être d'accord.
Mais c'est la réalité. C'est la réalité, puisque nous avons les mêmes prophètes. Enfin, l'Aïd, c'est l'histoire d'Abraham, que je sache. Abraham, c'est quand même. C'est nous qui l'avons inventé, hein. C'est pas les musulmans. ils l'ont pris, donc c'est très bien. Et donc, c'est ça la civilisation judéo-musulmane. Et nous avons vécu une civilisation judéo-musulmane. Voilà. C'est pas que nous vivions côte à côte. Nous avons vécu ensemble. Voilà. Et on peut parler de civilisation judéo-musulmane parce que nous avons créé des choses ensemble, nous avons fait des choses ensemble. Et alors que les chrétiens, jusqu'à preuve du contraire, ils ont quand même beaucoup génocidé leurs juifs. Voilà. Alors si c'est ça une civilisation, voilà. Mais de dire civilisation judéo-chrétienne, c'est pour tenir à distance l'islam. Plus que pour civilisation judéo-chrétienne, il n'y en a jamais eu. Par contre, donc quand elle dit il était un juif musulman, c'est faux, bien sûr, parce que soit on est juif, soit on est musulman, on peut pas être les deux à la fois. Mais elle voulait dire il était des nôtres, quoi. Voilà, il était.
Non, on peut pas être les deux. Je pense que la question ne se posait pas avant ces guerres d'indépendance, avant ces frontières.
Il ne faut pas non plus idéaliser et changer. Je veux dire, être juif, c'est être juif, être musulman, c'est une autre foi, c'est une autre religion.
Ils fêtaient quand même les fêtes religieuses ensemble, mais souvent, que ce soit la fête religieuse, il y avait des musulmans.
Ils s'invitaient les uns les autres, mais les religions sont proches, les deux religions sont proches. Nous avons les mêmes prophètes, enfin les musulmans ont repris la plupart des prophètes du judaïsme, puisque l'islam est une religion plus récente, elle est issue du judaïsme et du christianisme d'ailleurs. Donc c'est très proche, et il y a des notions de sacré et des ritualisations du sacré qui sont les mêmes. Et même les croyances populaires, par exemple les saints, les marabouts, ça fait pas partie de la religion. ni les rabbins, ni les imams, ils aiment ça, parce que ça ne fait pas partie de la religion. Ce sont des croyances populaires qui existaient avant les religions. Et là, on a les mêmes gestes. Enfin, je veux dire, quand je filmais Ziyara, mon assistant...
Sur les sépultures, c'est un road movie sur les sépultures juives et sur les gardiens musulmans des cimetières juifs.
Et en entrant dans ces cimetières juifs avec mon équipe marocaine, tous des jeunes musulmans, je me suis mise à refaire, moi qui ne suis pas croyante, mais je me suis prise à, de même que ma langue est revenue, que la Darija m'est revenue, me sont revenus les gestes des femmes, de mes ancêtres femmes, par exemple d'allumer une bougie sur la tombe de quelqu'un d'une famille, de caresser la pierre, etc. Et mes collaboratrices, mes jeunes collaboratrices musulmanes, se sont mises très vite à faire la même chose que moi, parce qu'elles disent chez nous c'est pareil. Et donne-moi une bougie, et on s'est mis à allumer des bougies ensemble. C'est exactement le même rituel, les mêmes gestes. Donc oui, il y a, au Maroc en tout cas, pour moi c'est clair que nous avions une civilisation judéo-musulmane, même si c'était très clair qui était juif, qui allait à la synagogue et qui allait à la mosquée, et on se mariait pas entre nous, ou très peu. Mais on inventait des choses ensemble, on pratiquait des choses ensemble, et il y avait des saints partagés, il y avait des rituels et des saints, des lieux saints partagés aussi.
Nous vous espérons nombreux à l'écoute de nos émissions sur Radio Galère et à suivre la deuxième partie de ce reportage le mois prochain, même jour, à la même heure. Au revoir et à bientôt.
عشقاني اللي إلمي الصغرى يمحي وزيتوني والتمر عمري ما نسيت قاسلي الغزلة أنا في الساحرة بسمة قليل في الغسرة لعت الأيام والجمرة عمري ما نسيت قاسلي البارود والنغرة آخر اللي منامة في الحفرة زيد الملامة يا سمرة عمري ما نسيت قاصر البارود والنغرة آخر اللي منامة في الحفرة زيد الملامة يا سمرة عمري ما نسيت عمري ما نسيت عمري ما نسيت رابا بابا رابا بارابا رابا بارابا بجدادي والمال مالي والزاد مالي بدنا